prenez vos Bibles et on va les ouvrir à Genèse chapitre 9, d'accord? Donc aujourd'hui, c'est la quatrième et dernière partie sur le déluge et l'arche de Noé, que j'ai intitulé en sous-titre, écoutez bien, « Les sept réalités étonnantes de l'après-déluge ». Les sept réalités étonnantes de l'après-déluge. Alors, si vous n'étiez pas avec nous ces dernières fois, je vais juste très rapidement réviser pour nous amener là où nous sommes. Alors, je commence avec Genèse chapitre 6 et le verset 5. Écoutez, voici la condition de la terre juste avant le déluge. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et aussi au verset 13, « Alors Dieu dit, à cause de ce constat de la terre, Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence, voici je vais les détruire avec la terre. » Donc Dieu dit, voilà, il y a tellement de mal sur le monde que je vais détruire le monde. Comment ? Verset 14, « Fais-toi une arche de bois de gopher. » Et il donne les instructions. Un bateau pour sauver lui et sa famille, parce que le reste de tous les hommes sur terre, il allait les détruire, les exterminer par un déluge. Et donc, c'est exactement l'histoire des chapitres 7, 8 aussi, cette promesse que le déluge viendrait. Et donc, à partir du chapitre 7, verset 6, eh bien, l'arche est terminée. Noé a pris 100 ans environ pour la construire. C'est vrai, c'est très long. Il rentre dans l'arche. Ils sont 8 personnes. Noé, sa femme, ses 3 fils, leurs 3 femmes. Et tous les animaux viennent deux par deux. Alors, vous dites, mais John, tu crois ça vraiment littéralement? Oui, 100%. Il faut réécouter les messages pour savoir pourquoi. Je pense que c'est vraiment arrivé. L'Éternel ferma la porte et le déluge a commencé. 7 jours plus tard, les grands abîmes jaillirent donc de sous la terre, des cavités d'eau jaillirent et les écluses des cieux, nous apprend le chapitre 7, ont commencé à déverser de la pluie. Et là, la pluie tomba 40 jours et 40 nuits et l'eau dans le monde entier a commencé à s'élever. L'arche a été soulevée, l'arche a flotté, toutes les montagnes ont été couvertes de 15 coudées au-dessus, donc 7,30 mètres du plus haut sommet dans le monde et tout meurt. Tout meurt. Et l'eau reste 150 jours. Chapitre 8, les sources des abîmes et les écluses des cieux se ferment, la pluie s'arrête. Les eaux se retirent. Et l'arche, ce grand bateau, s'arrête sur le mont Ararat, qui est aujourd'hui entre la Turquie et la Russie. 40 jours plus tard, Noé ouvre la fenêtre de l'arche, un corbeau puis des colombes sont lâchés pour voir si la terre était habitable. Et on a vu que le déluge a duré un an, exactement. Finalement, Noé, sa famille, tous les animaux sortent. La première chose que Noé fait, chapitre 8, verset 20, c'est de construire un autel et bénir l'Éternel. Bénir l'Éternel parce que sa grâce envers lui et sa famille est la justice de Dieu qui a jugé le péché. Et ça nous amène à aujourd'hui. La question que j'aimerais poser, que j'aimerais voir avec vous, est celle-ci. Qu'en était-il juste après cet événement? Voilà, l'arche est posée sur le mont Ararat, la porte est ouverte, les animaux sortent, Noé sort, sa femme sort, ses fils sortent, ses belles-filles sortent, bon, cet ordre, d'accord, ils sont sortis, je pense, ensemble, je ne sais pas, j'y étais pas. Et alors quoi? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé juste à ce moment-là? Eh bien, j'ai intitulé ça aujourd'hui « Les sept réalités étonnantes de la vie juste après le déluge ». Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si on va parachuter dans le monde post-déluge et examiner ces premières années après que Noé et sa famille sortent de l'arche. Alors, il y en a sept. Et elles sont là dans les chapitres 8, 9, enfin 9 et 10 plutôt. 8 et 9. Numéro 1. Les hommes et les animaux sont appelés à se multiplier sur la terre. Les hommes et les animaux sont appelés à se multiplier sur la terre. Chapitre 9, verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Et le verset 7, il répète, et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez-vous sur elle. » En fait, Dieu ne fait que de répéter l'ordre qu'il avait déjà donné avant le déluge, dans le chapitre 1 et le verset 26, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail. » Et non, c'était plutôt juste après, verset 28, Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. » Dieu veut que la terre soit maintenant repeuplée. N'oubliez pas, tous ses habitants ont été tués. Il n'y a que Noé, sa femme, ses trois garçons et leurs trois femmes. Maintenant, ils doivent se remultiplier. Alors, il y a une petite différence, la phrase « remplissez la terre et l'assujettissez » n'apparaît pas ici, post-déluge. Pourquoi pas? Est-ce que la donne a peut-être changé? Aujourd'hui, il y a une chose qui est différente par rapport à ce qu'il y avait avant le déluge. Et avant que Dieu, lorsque Dieu a donné le premier ordre, c'est la présence de Satan dans le monde et son rôle. Dans 1 Jean 5, 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, il dit « repeuple le monde ». Deuxième réalité étonnante de la vie après le déluge. Alors, c'est vraiment un drôle de message aujourd'hui, mais écoutez, la viande est ajoutée au régime alimentaire de l'homme. Là, on change complètement de sujet, d'accord? Vous dites quoi? Ouais, non, mais c'est là, regardez le verset 2. D'accord, on est de nouveau dans Genèse, chapitre 9 et le verset 2. « Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous en donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. » Alors, c'est une deuxième chose qui a complètement changé post-déluge. C'est le régime alimentaire de l'homme. À partir de maintenant, les animaux sont donnés à l'homme comme nourriture, en plus de l'herbe. Verset 3. Alors, vous dites, mais pourquoi ce changement? En fait, on ne sait pas vraiment. Certains suggèrent que le nouvel environnement hostile après le déluge exigeait la protéine animalière plus aiguë de ce qui aurait pu être trouvé dans d'autres nourritures. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une condition au verset 4, « Vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. » Alors la chair est clairement ici donnée comme nourriture, la vie de la chair fut donnée pour les sacrifices. Lévitique 17, 11, peut-être vous vous rappelez de ce verset aussi. Lévitique 17, 11 nous dit, « Car la vie de la chair est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Et c'est par la vie que le sang fait l'expiation. » Donc il y a un symbole. Le sang, c'est pour l'expiation des péchés. Le sang d'animal versé sur un autel de sacrifice était accepté par Dieu comme une mort substitutionnelle pour l'homme coupable de péché. Au lieu que l'homme soit tué pour son péché, l'animal l'était à sa place. Son sang couvrait son péché temporairement, bien sûr, jusqu'au Messie. Alors ce verset est quand même intéressant, car il démontre combien les choses avaient changé après le déluge. Alors c'est intéressant, les animaux, dorénavant, au lieu d'obéir aux hommes avant la chute de l'homme, maintenant, nous apprend le texte, ils auraient peur de l'homme, c'est ce qu'il dit. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, verset 2, pour tous les oiseaux du ciel, tout ce qui se meut sur la terre, pour tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. Et le mot crainte, c'est le mot terreur. Donc, les animaux, dorénavant, auraient peur, ils auraient une terreur des hommes. Pourquoi? C'est à cause du verset 3. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture, je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Les animaux aujourd'hui, ils ont peur. Ils ont peur parce que les hommes vont les tuer pour les manger. Puisque la viande est ajoutée à leur menu, les hommes avaient été végétariens, maintenant ils sont carnivores. Et de ce fait, les animaux ont peur des hommes. Alors, il y a une petite restriction intéressante au verset 4, seulement, vous ne mangerez point la chair avec son âme, mais avec son sang. C'est un des premiers versets, il y en a beaucoup dans la Bible qui parlent qu'il ne faut pas manger, interdire de manger la viande avec son sang. Alors, pourquoi pas? Alors, on l'a déjà vu, le sang est lié à la vie et au sacrifice. Alors, la question qu'on a envie de se poser, c'est est-ce que ça veut dire que nous n'avons pas le droit, est-ce que nous, on doit obéir cette loi aujourd'hui? Les chrétiens doivent-ils obéir cette loi? Sommes-nous interdits de manger, par exemple, du boudin ou du steak tartare ou un steak bleu? Voilà. Parce que ce serait de manger de la viande avec du sang. Une question pratique et intéressante, je trouve. Alors, nous pensons que dans Acte 10, nous avons la réponse à cette question. Pierre, vous rappelez, priait sur son toit lorsqu'il a une vision. Une nappe descendit du ciel remplie d'animaux de toutes sortes, inclut des animaux considérés impurs selon la loi juive. La voix du Seigneur se fit entendre et lui ordonna de tuer ces animaux et de les manger, au verset 13. Et trois fois, Pierre, il refuse, il dit « Non, Seigneur, je ne peux pas les manger, ce sont des animaux impurs ». Et la loi était claire par rapport à quels animaux étaient impurs. Alors, c'était quoi le but de cette vision? Bien, le premier but de cette vision, la grande leçon de ce texte pour Pierre, était le salut de Jésus était ouvert pour les païens tout autant que pour les juifs. Les juifs, étant le peuple élu de Dieu, certains avaient cette attitude de dire non, c'est que pour les juifs l'évangile. Et donc Dieu a utilisé cette vision pour dire à Pierre non, les païens, les non-juifs aussi peuvent recevoir Christ comme sauveur et seigneur. Et donc Pierre est allé annoncer l'évangile à Corneille, en Romain. Mais la deuxième chose, il est clair qu'il y a une deuxième leçon ici. Sous la Nouvelle Alliance, les lois cérémoniales et diététiques conçues par Israël dans l'Ancien Testament avaient été levées. Il est impensable, écoutez bien ce que je veux dire, que Dieu aurait demandé à Pierre de faire quelque chose d'interdit dans la loi pour l'encourager dans quelque chose. Non, nous apprenons ici quelque chose sur les changements de la Nouvelle Alliance par rapport à l'Ancienne Alliance. Le régime des chrétiens est différent que le régime était pour Israël. Dorénavant, les chrétiens seraient connus pour leur amour et non pas pour leur régime. C'est important. Dans Jean 13, vous connaissez ce verset, on l'utilise beaucoup. Jean 13, 35, « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Il y a un autre texte important sur ce sujet, c'est la prohibition de Acte 15 pour les païens Antioche de manger de la viande, de ce type de viande. Alors il faut bien penser au contexte précis. La plupart des convertis d'Antioche sortaient d'un contexte de paganisme extrême. Ici, Jacques et les auteurs, et les autres qui sont avec lui, leur disaient de faire une cassure radicale avec leur ancienne vie de païens afin de ne pas offenser des frères et des sœurs dans l'Église. Et dans Romains 14:14, et tout ça, ça va devenir clair maintenant. Donc Romains 14:14, et peut-être je vais le lire, et tout ce débat c'est sur la viande, n'est-ce pas? 14:14, Romains 14:14. Je sais, je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Paul dit ici qu'il est parfaitement ok de manger de la viande offerte aux idoles, c'est tout le contexte de Romains 14. Car rien en soi est en fait impur. Mais si mon acte de manger de la viande fait que mon frère chute, alors je me retiendrai de manger mon steak préféré. Donc il dit ici noir sur blanc que de manger un steak, c'est ok. C'est pas le problème. La prohibition de Genèse 9:4, notre verset, n'est pas applicable ici. On n'est pas en train de parler de la cuisson du steak. Est-ce que j'ai le droit de manger un steak bien cuit, mais pas bleu ou un steak tartare? Est-ce que c'est ça ce qu'on est en train de voir ici? Non. Non, il n'est pas en train de dire qu'un steak bleu est moins acceptable qu'un steak bien cuit. Clairement, la prohibition de Genèse 9 n'est plus d'actualité sous la Nouvelle Alliance. Tous les animaux auraient peur des hommes, inclus les oiseaux, les animaux sur la terre et les poissons. Et nous pouvons les manger. Alors ça, c'est quand même intéressant, vous ne trouvez pas? Vous dites, mais la Bible, elle dit des trucs un petit peu étranges. Tout d'un coup, on a le droit de manger de la viande. Ben oui. Donc si aujourd'hui, vous allez manger, là, vous allez manger, il y aura de la viande, je pense aujourd'hui, je sais, parce que ma femme en a préparé. C'est ok. D'accord? Elle a fait du très bon chili con carne. Super, d'accord? Alors, il est bien cuit, donc il n'y a pas de problème, d'accord? Mais vous pouvez manger de la viande. No problem. D'accord ? Trois. Trois. Troisième réalité étonnante de l'après-déluge. Là, on change complètement de sujet. Vous êtes prêts ? La peine de mort est prescrite pour protéger la dignité de l'homme. La peine de mort est prescrite pour protéger la dignité de l'homme. Regardez verset 5. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, je le redemanderai l'âme de l'homme à l'homme et l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Vous dites quoi ? Ah ben oui. C'est super. Car ici, nous voyons la naissance de l'autorité confiée à l'État. Ces versets cherchent à réguler de manière juste et équitable les crimes et surtout les meurtres. Et alors, ça montre quoi ? Ça montre que le déluge a réglé beaucoup de choses, mais n'a pas réglé une chose. Le mal dans le cœur de l'homme. Le déluge n'a pas réglé le péché, en fait. Et ceci montre l'inclination mauvaise du cœur humain. C'est une des premières choses que Dieu établit en sortant de l'arche, peine de mort, pour le meurtre. Dieu a dû exterminer déjà une fois l'humanité. Aussitôt, Dieu doit réguler le comportement de l'homme vis-à-vis d'un meurtre, car le problème du cœur humain n'a pas changé. Alors, quelques questions que je vais répondre rapidement, d'accord ? Que faire si un animal tue un homme ? Verset 5. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal. À tout animal. Dans Exode 21, juste après les 10 commandements, 21 et le verset 28 dit ceci. 21, 28. Si un bœuf frappe de ses cornes un homme ou une femme, et que la mort en soit la suite, le bœuf sera lapidé. Sa chair ne sera point mangée et le maître du bœuf ne sera point puni. Donc, si tu es propriétaire d'un bœuf et ce bœuf accidentellement tue ton voisin, t'es pas coupable, mais le bœuf doit mourir. Vous dites, mais c'est quand même étrange. Pourquoi ? Car ceci est un revers de l'ordre que Dieu a donné. Que les hommes doivent assujettir les animaux et dominer sur eux. Lorsqu'un animal tue un homme, c'est l'ordre à l'envers. C'est l'animal qui domine sur l'homme, et ça, c'est contre la loi de Dieu. Et donc, l'animal doit mourir. Mais alors, que faire si un homme tue un autre homme ? Ah ben là, ça ne peut pas être plus clair. Il dit, « Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme, qui est son frère, si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » Alors, encore plusieurs questions. Quelle est la punition pour le meurtre ? Verset 6, le sang du meurtrier doit être versé. Ceci est une manière de dire que la mort qu'il a infligée sur un autre doit lui être infligée aussi. Oui, mais deux, quelle est la justification pour la peine de mort ? Réponse, car Dieu a fait l'homme à son image, il le dit. Le meurtre doit être puni par la mort, car il frappe au caractère sacré de la vie humaine. Puisque l'homme a été créé par Dieu et à l'image de Dieu, un meurtre est en fait un outrage perpétré contre Dieu. Oui, mais alors, comment on définit un meurtre ? Comment on définit un meurtre ? Allez, j'ai utilisé le dictionnaire. Le dictionnaire français dit ceci. Meurtre, fait de tuer volontairement quelqu'un en le décidant de manière spontanée ou en le prévoyant. Le meurtre a toujours inclus le côté de préméditation. C'est ça la clé. Ceci différencie une mort accidentelle. Par exemple, vous êtes en train de couper du bois et tout d'un coup, la tête de votre hache part et atteint votre ami dans la tête et le tue. Ça, c'est une mort accidentelle. C'était pas prévu. Il y aura peut-être négligence, mais au moins c'était accidentel. Préméditation, c'est autre chose. Alors, beaucoup de gens ont de la peine avec ça, ils comprennent pas, parce que le sixième commandement nous dit ceci dans Exode 20:13, tu ne tueras point. Donc certains disent, il faut jamais tuer. Donc la peine de mort, c'est impossible. Ah, le problème, c'est qu'il faut aller plus loin. Il faut aller un chapitre plus loin, dans Exode 21, 12, qui dit « Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. S'il ne lui a point dressé d'embûche et que Dieu l'ait fait tomber sous sa main, je t'établirai un lieu où il pourra se réfugier. Mais si quelqu'un agit méchamment contre son prochain en employant la ruse pour le tuer, tu l'arracheras même de mon autel pour le faire mourir. » Donc c'est ici qu'on voit l'idée de préméditation. C'est un complot. Et ils avaient justement en Israël un truc vraiment super, c'est que si tu tuais accidentellement quelqu'un, mais peut-être la famille de cette personne que tu viens tuer pense que c'était un meurtre, et toi t'es pas d'accord, tu pouvais fuir à une ville de refuge pour qu'un tribunal soit mis en place pour déterminer les faits. C'était un endroit où tu pouvais te protéger d'une vengeance de quelqu'un. Regardez avec moi Deutéronome 19. Deutéronome 19, on le voit ici au verset 4. Cette loi s'appliquera au meurtrier qui s'enfuira là pour sauver sa vie lorsqu'il aura involontairement tué son prochain sans avoir été auparavant son ennemi. Donc là, c'est un meurtre involontaire, il part à une ville de refuge. Mais verset 11, « Mais si un homme s'enfuit dans une de ces villes, après avoir dressé des embûches à son prochain par inimitié contre lui, après l'avoir attaqué et frappé de manière à causer la mort, donc un meurtrier s'est dit, super, je viens de tuer quelqu'un avec préméditation, mais je vais m'enfuir à une ville de refuge, si c'est le cas, les anciens de sa ville l'enverront saisir et le livreront entre les mains du vengeur de sang afin qu'il meure. » Vous dites, ouh, c'est un peu radical. Regardez la suite. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié. Tu feras disparaître d'Israël toute effusion de sang innocent et tu seras heureux. Ah, dis donc. Donc, s'il y a de la préméditation volontaire, il faut une cour de justice, les anciens de la ville. Il faut pas avoir de pitié. Il faut être juste, mais pas avoir de pitié. Trois, il faut des témoins selon 19:15. Et je trouve très intéressant ça, je lis simplement dans Ecclésiaste 8:11, parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme est rempli en eux du désir de faire le mal. Et la sentence doit être prompte, prompte. Alors par qui est-ce que cette peine de mort doit être infligée? Eh bien, par l'homme, c'est ce que notre texte nous dit. Par l'homme, c'est ce qu'il dit. Si quelqu'un verse le sang, on est dans Genèse 9, 6, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça parle clairement de l'autorité en place, pas une vengeance personnelle. Deutéronome 19, on l'a vu, et même dans Romains chapitre 13, on voit que c'est l'État qui porte l'épée. D'accord? Il dit, le magistrat est serviteur de Dieu, verset 4 de Romains 13, pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Donc, la Bible dit que l'État a le droit de mettre quelqu'un à mort s'ils ont tué quelqu'un avec préméditation. Et en fait, je révise ce que je viens de dire, on a le devoir de le faire. Alors je sais que vous aimez les films de Clint Eastwood, d'accord? Où tout le monde va se venger, puis c'est toujours le bon à la fin qui gagne. Ils sont bien ces films, enfin moi j'aime bien aussi, d'accord? Mais c'est pas des films très bibliques, d'accord? C'est pas des films très bibliques. Alors, par quel moyen est-ce que la peine de mort doit être exécutée? Eh bien, rien n'est dit sur ce sujet. La grande liberté, en ce qui concerne l'instrument de peine de mort, il est stipulé dans les Écritures, sauf dans quelques cas, qui n'y a rien prescrit sur là, mais on a parfois la lapidation et aussi l'épée. Lapidation, ben, ça veut dire des pierres, l'épée, ça veut dire que ben, l'épée, quoi. Alors, question, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, est-ce que la peine capitale est toujours d'actualité dans le Nouveau Testament? Ou est-ce que c'est aboli tout ça? Ben, c'est intéressant, Jacques 3, je ne vais pas lire le verset, Jacques 3, 8 à 9 nous dit que l'homme, encore aujourd'hui, est créé à l'image de Dieu. Donc rien n'a changé par rapport au fait que nous avons été créés à l'image de Dieu. C'est intéressant, dans une parabole, dans Matthieu 22 par exemple, Jésus raconte une parabole, et au verset 6, « Et les autres le saisirent, la parabole du festin des noces, l'autre le saisirent, l'outragèrent et le tuèrent, mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui à son trafic, et les autres le saisirent de serviteurs et l'outragèrent et le tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya les troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. » Jésus utilise une parabole pour montrer, dans cette parabole tout simplement, que la peine de mort a été effectuée par la personne dont il l'écrit ici. Dans Matthieu 26, 52, vous rappelez, Pierre, il coupe l'oreille de Malchus. Matthieu 26, verset 52, on lit ceci. Jésus lui dit, remets ton épée à ta place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Fais attention, si tu fais un meurtre prémédité, tu vas mourir aussi par l'épée, Pierre. Très intéressant ce qu'il est en train de dire. C'est intéressant que même dans Luc 23, vous voyez, il y a les deux brigands sur la croix, et à un moment donné, un des brigands, il dit, pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. C'est intéressant que ces deux brigands, qui étaient crucifiés pour leurs crimes, ont reconnu le bien fondé de la punition de leurs crimes. C'est ce qu'ils disent. Nous recevons ce qu'on a mérité nos crimes. Jésus a pardonné à des malfaiteurs sans pour autant annuler sa peine de mort. Je trouve intéressant aussi que dans Actes 25, ça c'est peut-être mon verset préféré sur le sujet, 25-11, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il se défend. Dans 25-11, il dit aux Romains, « Si j'ai commis quelque injustice ou quelque crime digne de mort, je ne refuse point de mourir. » C'est Paul qui dit ça. Il dit, « Si j'ai commis un crime qui mérite la peine de mort, j'accepte. » Il est en train de dire quoi? Bah, apparemment que la peine de mort est justifiée. Et bien sûr, Romains 13, 4 que j'ai vu tout à l'heure, l'État a la responsabilité d'utiliser l'épée. C'est en Europe, le protocole numéro 6 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit en temps de paix, ça j'ai découvert ce matin, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais interdit en temps de paix le recours à la peine de mort. La loi est entrée en vigueur le 1er mars 1985. Alors peut-il y avoir des erreurs dans l'exécution de la peine de mort? Oui, ça c'est sûr. Mais si la peine de mort n'était infligée qu'au cas 100% clair et net, alors il y aurait beaucoup moins de bavures. Le problème aujourd'hui, c'est que la peine de mort n'existe plus du tout, et la justice est clairement affaiblie. Et ça, ça crée un sentiment d'injustice de la part de ceux qui ont connu des meurtres de leurs amis ou de leurs membres de leur famille et de leurs proches. Vous savez, je donne des tours de la réforme à Genève, et un des trucs qui reçoit le plus de « waouh », c'est un truc à Genève qui n'a rien à voir avec Jean Calvin. D'accord? C'est un tour sur Jean Calvin, mais ça c'est un objet que je dis, c'est un objet non lié à Calvin, mais très intéressant. D'accord? En 1798, Genève est devenue pendant quelques brèves années, je ne sais pas si vous le saviez, un département français. Le département du Léman. La loi du 25 mars 1792 rendait obligatoire que chaque département français ait sa propre machine à décapiter. Guillotine. Donc, à la Place Neuve, là où il y a le Grand Théâtre, là où se trouve aujourd'hui le buste de Henri Dunant, au fait, dont le arrière-arrière-oncle est dans notre église, Jean-Jacques Dunant, il est juste là, qui peut dire bonjour. Jean-Jacques, voilà, c'est l'arrière, tu es l'arrière-oncle, c'est juste. Voilà, d'accord, c'est l'arrière-grand-oncle d'Henri Dunant, d'accord. Bref, il y a le buste d'Henri Dunant qui est à la Place Neuve. Et c'est là où il y avait la guillotine à l'époque. Et elle a servi, c'est ce qu'on m'a dit, je ne l'ai pas vérifié, 74 fois. D'accord? Alors, cette guillotine se trouve aujourd'hui dans le musée Tavel, au rez-de-chaussée à droite. Et je montre systématiquement cette guillotine. Et c'est intéressant, la réaction est toujours la même. La voici. Et ensuite, les gens vont toucher la lame, parce qu'elle est là, on ne peut pas les toucher avec. Ping, 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 ping. Il ne faut pas se couper, d'accord? Mais les gens, la réaction c'est toujours, ben oui, vous savez quoi? Une guillotine, c'est hyper dissuasif. Voilà ce que dit la Bible, d'accord? Vous connaissez le reste de l'histoire, il n'y en a plus aujourd'hui, il n'y a plus de peine de mort. Moi personnellement je trouve que c'est un grand tort, parce que la Bible est claire sur ce sujet. 4. On change de sujet encore, d'accord? Moi, j'aime bien cette section de la Bible, au moins on ne peut pas s'endormir parce que c'est tellement intéressant. 4. L'arc-en-ciel est donné comme un gage de la vie à l'humanité. Alors, on passe de la peine de mort à l'arc-en-ciel, d'accord? C'est super. Verset 9, regardez. Verset 9. 9-9. Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, de tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour des générations à toujours, j'ai placé mon arc dans les nues, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants et toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute la chair. L'arc sera dans la nue et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japhet. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé et c'est leur postérité que peupla toute la terre. Donc Dieu dit, voilà, tout le monde sort du bateau et il dit, j'établis mon alliance. Le mot hébreu bérit veut dire exactement ça, accord, pacte, contrat. Dieu dit, je vais signer un contrat, c'est une promesse, si vous voulez, que je prends pour vous. Alors pensez un instant à cet anneau que nous, beaucoup de nous qui sommes mariés, portons sur notre doigt. Pourquoi est-ce qu'on donne le mot alliance à cette bague ? Eh bien, c'est un signe, le signe d'un engagement mutuel, éternel en fait, jusqu'à la fin. C'est un engagement comme quoi, j'ai épousé ma femme, mon épouse, elle m'a épousé moi, et on est engagé jusqu'à la fin, et ça c'est un signe de cette alliance qu'on a fait entre nous. Alors, qui sont les parties de l'alliance ? Mais il le dit avec Noé, avec ses fils, versets 8 et 9. Mais aussi avec tous les animaux de la terre, c'est intéressant, hein? Avec les animaux de la terre, verset 10. Quelle est la promesse de cette alliance? Plus de mort par le déluge, il ne va plus jamais créer un déluge mondial, jamais. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette alliance est inconditionnelle. Autrement dit, rien n'est demandé à l'homme. D'habitude, une alliance est réciproque. Ici, rien n'est demandé à l'homme. C'est simplement Dieu qui promet. C'est Dieu simplement qui affirme qu'il s'engage à faire quelque chose pour l'homme et les animaux, de ne plus jamais les exterminer, jamais. Versets 11 et 15. C'est intéressant. L'échéance de cette alliance, elle s'arrête quand ? Jamais. Jamais. Versets 12 et 16. Alors, mais vous dites, oui, non, mais John, la Bible dit que la terre va être détruite un jour. Oui, elle va être détruite, mais un petit peu différemment. Vous vous rappelez ? Dans 2 Pierre 3, 10, le jour du Seigneur viendra, quand Jésus revient, comme un voleur, et en ce jour les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renfermera sera consumée. Comment ? Par le feu. Par le feu. Donc la promesse de Dieu, c'est que plus jamais la terre sera-t-elle brûlée, inondée par un déluge. Mais elle le sera un jour par le feu. Et le signe de l'alliance est un arc en ciel. Cet arc que vous connaissez si bien, que vous avez vu tellement souvent, ce bel arc dans le ciel. Rappelle cette alliance que Dieu a fait avec nous. Alors c'est intéressant de penser que c'est la forme d'un arc. Ça, j'avais jamais pensé à ça. À l'époque, les arcs, ben, on tirait des flèches avec. Donc c'est une sorte d'arme de guerre. Et là, c'est comme si l'arc est suspendu dans le ciel et il ne s'utilise plus. Terminé. Terminé. Dieu ne fait plus la guerre avec nous dans ce sens-là. Donc, en voyant cet arc, on pense à la bonté de Dieu envers tous les hommes et tous les animaux. Vous savez ce qu'on appelle ? On appelle ça la grâce commune. Vous savez, la plupart des gens, ils ne connaissent pas Christ, ils ne connaissent pas ses histoires. Ils ne savent pas que Dieu s'est engagé vis-à-vis d'eux de ne jamais les tuer par un déluge mondial. Il y a quelques temps en arrière, peut-être un an en arrière, j'étais à M-Park. Je ne sais pas si c'était avec quelqu'un, mais à un moment donné, enfin, je fais pas mal de rendez-vous à M-Park, là-bas à la cafétéria. Tout d'un coup, il y a un monstre arc-en-ciel qui apparaît. Et tout le monde était là, waouh! Alors tout le monde est sorti sur le balcon pour voir. Puis j'étais là, on discutait avec des gens, ah, super là, on prenait des photos et tout. Puis je me suis dit, tiens, c'est l'occasion, l'occasion. Alors je commence à parler avec le gars à côté de moi, là, j'ai un gars, puis il dit, ouais, c'est super, ouais, c'est génial l'arc. Et c'est beau, ouais. Et tu sais, moi, je trouve cet arc absolument super parce que pour moi, c'est une promesse. Hein? Ben ouais, mais tu te sens pas allégé le fait que tu vois l'arc? Mais allégé de quoi? Ben, je sais pas, tu sens pas que le jugement n'est pas là? Ben, il me regardait, il savait pas du tout de quoi je parlais. Je dis, mais la Bible, tu connais pas d'où vient l'arc-en-ciel? Non. Mais je lui dis, mais tu sais, c'est une promesse, ça, c'est comme l'alliance sur mon doigt, ça c'est une promesse que Dieu ne va jamais te juger avec un déluge, jamais, jamais, jamais. Il m'a regardé, non mais franchement là, il savait pas du tout. Mais on devrait utiliser en fait ces situations pour essayer d'annoncer l'évangile aux gens. C'est une promesse, elle est là dans Genèse 9, une promesse. 5, je vais vite, 5, le mal recommence à se répandre sur la terre. Le mal commence à se répandre sur la terre. Alors là, mes amis, on arrive à un texte vraiment intéressant. C'est le péché de Noé. Vous vous rappelez? Je ne vais pas faire long, d'accord? Regardez verset 20. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Ok, très bien. Si seulement le texte s'arrêtait là, il ne s'arrête pas là. Il but du vin. Ça, à la limite, ça passe. C'est le prochain mot. S'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Vous savez ce que j'aime avec la Bible? C'est que les meilleurs hommes sont révélés toujours comme étant des pécheurs. Là, Noé, un homme exceptionnel, ben voilà, il fait une monstre gaffe ici. Il commence à cultiver la terre, ça c'est bien, il plante une vigne, ça implique que ça a pris du temps, et il boit du vin et il s'enivre. Alors le problème avec le vin, vous savez, vous connaissez, hein, d'un côté c'est très bien parce que le psaume 104 nous le dit. Le psaume 104, 15 nous dit ceci, le vin réjouit le cœur de l'homme. Donc un peu de vin, c'est pas la fin du monde, mais un peu trop de vin, ça peut être la fin du monde. C'est ça le problème. D'accord? Et donc alors lui, il devient ivre et il se découvre au milieu de sa tente, on apprend. Quelle fut la nature exacte de son péché ici? C'est plutôt simple à déceler, il agit comme un païen. Une fois ivre, il se dénude, probablement à cause de l'effet du vin de chaleur. Verset 22, Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et le rapporta d'or à ses deux frères. Alors on sait qu'il commet un péché ici, Cham, pourquoi? Parce qu'il va être maudit au verset 25. Quand il se réveille, il dit, maudit soit Canaan. Donc il maudit en fait son fils, son quatrième fils. Alors c'est quoi son péché? Hein, le texte n'est pas très clair, il dit tout simplement Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et le rapporta dehors à ses deux frères. Alors les rabbins ont suggéré qu'il avait peut-être castré Noé parce que Noé n'a jamais eu d'enfant, c'est pas dans le texte. D'autres suggèrent que Cham avait couché avec sa mère, mais ça c'est pas dans le texte non plus. D'autres encore suggèrent que Cham aurait attaqué son père par une passion homosexuelle, c'est n'importe quoi, c'est pas dans le texte. Le problème, c'est que l'expression hébreu au verset 22 nous dit tout simplement qu'il a vu la nudité de son père. Donc il n'a pas participé dans la nudité de son père, de quelconque manière, il l'a vu. Et grammaticalement, cette phrase est dans la forme réflexive qui veut dire qu'il s'est auto-imposé sa nudité, Noé. Alors que s'est-il passé? La plupart des commentateurs pensent que Cham a vu son père ivre et nu accidentellement, mais lorsqu'il est allé expliquer à ses frères ce qu'il avait vu, eh bien, parce qu'il a dit qu'il la rapporta d'or à ses deux frères ce qu'il avait vu, il le fit avec fierté et orgueil, d'une manière exaltée, presque heureux d'avoir vu son père dans un tel état. C'était une sorte de manière de triompher sur son propre père. De dire, je t'ai eu. Ce qui est intéressant, c'est que quand il est maudit au verset 25, c'est toute la lignée de Canaan, les Cananéens qui sont maudits en fait. Et si vous regardez, je ne vais pas le faire, mais si vous regardez Lévitique 18, vous verrez qu'il est clairement expliqué que les péchés des Cananéens sont des péchés sexuels. Et tout le chapitre parle de ces péchés sexuels. Et Lévitique 18 confirme le comportement immoral des descendants de Cham ici. Donc, ce qu'on est en train de conclure, c'est que le penchant de Cham pour l'immoralité a abouti dans des actes immoraux de ses descendants. Alors, les deux frères, ils ont eu quoi comme réaction? Verset 23, alors les deux frères, Sem et Japhet, prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Et lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce qu'il lui avait fait son fils cadet. Donc eux, ils réagissent bien. Et alors il les maudit, regardez verset 25, et alors il dit « Maudit soit Canaan, qu'il soit esclave des esclaves de ses frères. » Donc Canaan, c'est le quatrième fils de Cham, bien sûr. Et il dit encore « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave, que Dieu étende les possessions de Japhet, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. » Noé, en fait, maudit ici la nation de Canaan, qui était sortie des tribus de Cham. Et moi, je pense que ça fait peur. Je pense qu'on est en train d'apprendre la leçon ici, c'est que d'une manière nationale, l'ivrognerie débauchée rend un peuple esclave. Et le péché que nous, on peut avoir un grand effet sur les futures générations. Peut-être autre chose, attention d'abuser de l'alcool. Et pourquoi pas, attention aux drogues aussi, d'accord? 6. Le monde est repeuplé par les trois fils de Noé et leur postérité. Alors ça, c'est tout chapitre 10, on ne va pas le voir. C'est très simple, regardez. Chapitre 10. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japhet. Verset 2. Les fils de Japhet. Verset 6. Les fils de Cham. Verset 22. Les fils de Sem. Vous venez de voir tout le chapitre. Ça, c'est le chapitre le plus court que j'ai jamais prêché de ma vie, d'accord? Trois mots. Alors regardez le plan, peut-être sera plus facile. Voici globalement, je fais un dessin très, très, très facile. Japhet, les Mèdes, Grecs, Cypriotes, les Caucasiens, les peuples européens de l'Asie du Nord. Certains placeraient les Orientaux ici, c'est pour ça que j'ajoute une flèche. Il y a Cham, les peuples chamitiques, Éthiopie, Égypte, Cananéens, Philistins, Babyloniens, possiblement les Africains et les Orientaux, bien que certains placent les Orientaux avec Japhet. Sem, les peuples sémitiques, les Juifs, les Arabes, les Assyriens, les Araméens et les Phéniciens. Voici globalement comment la population du monde s'est refaite après Noé et ses trois fils. Il y a des noms intéressants, vous pouvez juste les regarder plus tard. Nimrod, on les versets 8 et 10, veut dire rebelle, c'est un puissant sur la terre. C'est lui qui a régné sur Babel ou Babylonie, on le verra dans le chapitre 11, et aussi sur Ninive. Verset 2, il y a le nom Magog qui apparaît. Beaucoup pensent que c'est le même mot pour Moscou, Magog, Moscou. Tubal, certains pensent que c'est Tobolsk en Russie, verset 2. Verset 4, Tarsis est en Espagne, c'est là où Jonas est parti, s'enfuit. Kittim, probablement Chypre ou la Sicile. Verset 4, Dodanim, probablement Rhodos en Grèce. Verset 6, Kouch, c'est l'Éthiopie. Verset 6, Mizraïm, c'est l'Égypte. Verset 6, Pout, c'est la Libye. Verset 6, Canaan, c'est la Palestine. Verset 11, Assour, ce serait la Syrie. Verset 16, Jébusien, ce serait proche de Jérusalem, la ville appelée Jébu dans Juges 19-10. Élam, ce serait la Perse au verset 22. Aram, la Syrie ou la Mésopotamie, verset 22. Et Outz, la ville de Job au nord de l'Arabie. Ah, écoutez, je termine avec ça. Septième point. L'arrivée du Messie est annoncée de manière indirecte mais majestueuse. En fait, on peut laisser le plan si vous voulez. L'arrivée du Messie est annoncée de manière directe et majestueuse. C'est intéressant, dans le chapitre 10, l'ordre des trois fils, c'est Japhet, Cham, Sem. Mais ce qui est marrant, c'est que dans chapitre 5, verset 32, lorsqu'on est introduit à ces trois frères, en fait, l'ordre est différent. 5, 32, Noé, âgé de 5 ans, engendra Sem, Cham et Japhet. Pourquoi est-ce que l'ordre est différent dans le chapitre 5 que dans le chapitre 10? Pour cette raison, c'est parce que le reste de la Bible va maintenant se concentrer sur Shem, Sem. Pourquoi? Parce que Sem est le père, si vous voulez, des peuples sémitiques et particulièrement des Juifs. Et qui sort des Juifs? Le Messie à venir sera juif. Et donc, à partir de maintenant, Japhet et Cham seront mis en arrière-plan. Et j'ai trouvé génial ce matin, j'ai trouvé ça en réfléchissant à tout ça, dans Luc 3, il y a une généalogie, un verset, Alors, je vais la lire à partir du verset 38, parce que dans Luc 3, verset 23, il est dit « Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph. » Et ensuite, il y a toute la généalogie qui va jusqu'à Adam, verset 38, et Dieu. Alors, je vais remonter maintenant. Alors, si on commence au verset 38, il y a la généalogie, il y a Dieu, ensuite il y a Adam, Seth, Enos, Canaan, Malaël, Jared, Enoch, Mathusala, Lamech, Noé, et Sem, jusqu'à Jésus. Ah, c'est trop génial, vous ne voyez pas? C'est génial. Donc, Genèse 10 nous parle du Messie à venir, mes amis. Voilà, voilà la beauté des généalogies. Il avait déjà été annoncé dans Genèse 3:15. Job, probablement le premier livre écrit de toute la Bible. Job 19, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Voyez-vous, tous ces gens dans l'Ancien Testament pensaient au Messie à venir. Genèse 10, Sem, sémitique, Israël, Jésus. Et dans Luc 2, vous rappelez quand Jésus est né? Et les bergers, vous rappelez? Les bergers. Luc 2, 11. Absolument génial. Alors l'ange leur dit, ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Messie, le Seigneur, Dieu incarné. Voilà le Messie de l'Ancien Testament, mes amis. Il est né à Bethléem. Et voici l'histoire de toute la Bible. Dieu offre la grâce à tout homme, toute femme et tout enfant pécheur en Jésus-Christ, son Fils. Voilà le message de toute la Bible. Et la prochaine fois, mes amis, tenez-vous bien, la tour de Babel. Ça va être intéressant. Levons-nous. Pardonnez-nous, le culte a été un petit peu long aujourd'hui, mais on a eu beaucoup de musique au début et je pense qu'on a vraiment été bénis par cette belle journée, mais c'est pas fini. On espère que vous allez pouvoir rester avec nous. Il y a un repas canadien somptueux avec plein de viande. D'accord? C'est génial. Et là, on va pouvoir manger. Alors, si vous n'avez pas la viande, c'est pas un problème. Si vous êtes végétarien, il n'y a pas de problème. Mais il y a des choses pour vous aussi. Mais moi, j'aime la viande, donc moi, je vais aller attaquer. Mais ça va être vraiment super. Alors, on est vraiment content que vous soyez là. Restez. On peut discuter ensemble, parler. Louise, si, moi, je vais te suggérer d'aller tout de suite peut-être avec Flavius. Je sais pas, vous allez derrière. Tu vas vers ta table. Ça va être la ruée pour les CD. D'accord? Il faut être prêt quand ils arrivent. D'accord? Donc, allez acheter un CD ou deux ou trois pour offrir et on va encore maintenant prier et remercier le Seigneur. Tu peux y aller si tu veux et on va juste prier Seigneur. Merci Seigneur pour toute ta bonté. Merci pour cette grâce Seigneur. Merci pour ce beau culte ce matin. Merci pour tout ce que nous avons appris. Merci pour le livre de la Genèse. Merci pour tout ce que nous apprenons sur nos ancêtres, sur qui nous sommes. Seigneur, c'est tellement fascinant et nous te remercions pour cette grâce, surtout de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, que tu nous as donné pour le pardon de nos péchés. Seigneur, à toi toute la gloire. Alléluia, vraiment. Et je te prie que cette journée puisse continuer autour de la table, que nous puissions nous réjouir les uns avec les autres, Seigneur, jusqu'à la semaine prochaine, lorsque nous nous verrons dimanche prochain. Donc merci encore, à toi toute la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen.